Loup.
Nous parlerons de cette vente aux enchères vertigineuses. Nous irons à Moréa où les factures d'électricité font polémique avant de nous rendre à Paris pour suivre les premiers pas de notre nouvelle députée. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
On commence par ce chiffre. 1 milliard de francs.
Oui, c'est le prix qui a été atteint pour un terrain mercredi dernier. Ça s'est déroulé lors d'une vente aux enchères de saisie immobilière. Alors situé à Tipperary, le site se compose de plusieurs lots, dont deux contiennent des hangars. Un total de 108 215 mètres carrés qui était mis à prix pour 250 millions de francs et qui est donc parti pour 4 fois plus cher. Christophe Tissot, qui présidait les enchères, n'a pas connaissance d'une vente ayant déjà atteint un tel chiffre. On l'écoute au micro de Lucie Rabréau.
Compte tenu de la qualité du bien en question et de la valeur des enchères, il y a eu plusieurs enchérisseurs. Mais effectivement, assez rapidement, les enchères se sont cristallisées autour de 2-3 acheteurs. Et puis effectivement, on a atteint un niveau record. Ça fait 6 ans maintenant que je préside les audiences de saisie immobilière et je n'avais jamais, depuis 6 ans, atteint ce record. Et il me semble que mon prédécesseur n'avait pas atteint ni plus ce niveau.
Ce sont de petites maisons, des terrains nus, des biens professionnels, de belles résidences privées de standing. Ces ventes aux enchères sont très variées. Elles concernent des saisies réalisées par les créanciers suite à des difficultés ou des impossibilités de paiement de la part des débiteurs. Alors le nom de l'acquéreur n'est pas connu le jour même. Chaque personne souhaitant enchérir est représentée par un avocat. Les acheteurs peuvent tout de même être présents et s'exprimer, mais c'est l'avocat qui porte l'enchère. Il est là pour sécuriser la transaction et être sûr que celui qui achète est bien en capacité de le faire. A noter tout de même que l'acquisition ne sera définitive qu'en fin de semaine, 10 jours après la vente de mercredi, un délai pendant lequel une surenchère peut encore être enregistrée à condition qu'elle porte à au moins 10% du prix, soit au moins 100 millions de francs supplémentaires qui doivent être mis sur la table.
Direction l'île sœur désormais.
Oui, Moréa, où depuis quelques jours, une partie des habitants se plaignent des factures d'électricité dont le montant a augmenté, des facturations qui ont été pointées du doigt par les administrés sur les réseaux sociaux. Certains usagers évoquent par exemple un chiffrage habituel par EDT autour de 6 000 francs et une facturation par les pics atteignant presque 50 000 francs pour le mois de mai. Alors rappelez-vous, l'EPIC Teito Laono Moréa, c'est l'établissement qui a repris la gestion du réseau électrique de l'île depuis janvier. Rattaché à la commune de Moréa, il s'occupe du réseau au niveau technique, mais aussi de la facturation. Selon la direction, c'est un décalage de la relève au cours du mois de février qui est à l'origine de ces facturations, parfois très élevées. Les explications du directeur de l'EPIC, Lionel Lafage, au micro de Vaïtiare Gobré.
Les personnes ont été facturées de l'électricité qu'ils ont consommée. On n'a pas facturé tout, pas du tout. C'est vraiment l'électricité qui était consommée. Simplement, il y a eu une facture qui était plus faible pour une partie de la population au mois de février. Et au mois d'avril, elle était plus importante puisqu'en fait, elle comprenait donc le mois d'avril complet plus la partie du mois de février qui avait été facturée.
La facturation du mois d'avril finalisée en mai a donc été calculée sur une période variable pouvant aller jusqu'à 60 jours selon les pics et c'est ce qui fait fluctuer les factures. Une situation qui a forcément impacté la trésorerie des usagers, ce que regrette le directeur de l'EPIC qui assure donc que tout va dans l'ordre.
Aujourd'hui, tout a été rectifié depuis une semaine. On a eu une de crise, on a discuté avec l'ensemble de nos partenaires. Et donc aujourd'hui, toutes les factures qui seront émises, donc à partir de la facture du mois de mai, donc qui arrivera fin juin, début juillet, toutes ces factures seront sur 30 jours, qu'elles soient estimées, qu'elles soient relevées ou non. Donc il n'y aura plus de surprise.
Plus de surprise donc pour les administrés de Moréa qui devraient recevoir dès le mois de juillet des factures qui devraient davantage correspondre à une consommation réelle sur un mois.
À Paris, les premiers pas d'une suppléante devenue députée.
Oui, vous le savez, après avoir remporté les élections territoriales, le président Moetei Brotherson a dû rendre son écharpe de députée. Elle est désormais sur les épaules de sa suppléante, Mariana Reid Arbelot, qui prend ses marques à l'Assemblée nationale. Dans la lignée de son prédécesseur, la nouvelle députée a intégré différentes commissions et groupes. Caroline Perdry l'a rencontrée à Paris.
J'étais là il y a une semaine pour vraiment les tout premiers pas. Je suis arrivée qu'hier, on va dire que là, je commence à être debout. Puis voilà, ça se passe bien. Je vais récupérer les commission où moi étais siégée, donc la commission aux affaires étrangères, l'OPEXT, l'Office parlementaire des évaluations des choix scientifiques et technologiques, ça m'intéresse beaucoup. Pas mal de groupes d'amitié aussi. Après, il y a des dossiers de fond, peut-être une question sur le réchauffement climatique, mais c'est plus pour la rentrée.
Le premier dossier pour Mariana Reid Arbelot concerne l'extinction de l'indemnité temporaire de retraite, l'ITR, et le mécanisme de substitution qui doit être proposé. Dans ce dossier, elle retrouvera notamment le sénateur Teva Rofritsch, membre du comité de suivi de cette réforme.
Moetei Brotherson, dans son costume de président désormais, il envisage une visite au Japon.
Oui, le président a rencontré Koreito Matsuda ce week-end. Le chef du bureau consulaire du Japon à Nouméa est en visite sur le Fénois. Moetei Brotherson en a donc profité pour évoquer une visite en 2020. 2024. L'élu Tavini devrait se rendre au pays du soleil levant pour un sommet entre le Forum des îles du Pacifique et le Japon. Mais les deux hommes ont également parlé de la réouverture de la liaison aérienne entre Papeete et Tokyo, ce sera pour septembre, mais aussi des rejets en mer de la centrale nucléaire de Fukushima. A noter qu'avant cette rencontre, c'est la vice-présidente Eliane Teva Itoa qui s'est entretenue avec le représentant nippon. Elle a expliqué que le gouvernement envisageait de commémorer début août les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont touché le Japon les 6 et 9 août 1945. Des cérémonies officielles qui devraient être organisées dans la foulée de celle qui marquera le premier essai nucléaire français en Polynésie le 2 juillet. Selon la vice-présidente, l'idée serait, je cite, « d'éveiller la conscience du peuple polynésien sur la réalité du nucléaire ».
Un nouvel appel à projets lancé par le Fonds Pacifique.
Le Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique relaye son deuxième appel à projets portant sur l'appel sur l'année 2023. Les porteurs d'idées ont jusqu'au 1er septembre pour déposer leur dossier auprès du cabinet du Haut Commissariat. Les projets retenus pourront recevoir une subvention sous différentes conditions, à commencer par le critère essentiel du Fonds Pacifique. Contribuer à l'insertion régionale des collectivités françaises océaniennes, donc la Polynésie, donc, et contribuer aux actions de coopération économique, sociale et culturelle. Comme en 2022, le Fonds Pacifique donnera une préférence aux projets en lien avec la sécurité sanitaire ou alimentaire, mais aussi aux projets mettant en œuvre le savoir-faire des collectivités françaises sur des sujets comme la protection de l'environnement ou la réponse aux risques de catastrophe. Autre condition pour être éligible, les porteurs de projets doivent être en mesure de supporter au moins 50% du coût. Le fonds ne contribuera pas au-delà. Là, tous les renseignements sont disponibles auprès du Haut Commissariat.
En football, l'AS Tefana valide son titre.
Le club de Faha est officiellement sacré vainqueur de la Ligue 1. Samedi, les jaunes et verts ont largement battu Dragon 5-0 lors de la dernière journée de play-off. Un résultat festif, mais presque anecdotique pour l'équipe de Tefana. Elle était déjà assurée de gagner avant le coup d'envoi, puisque son proche poursuivant, Pierre, a récemment reçu une pénalité pour avoir fait entrer des joueurs suspendus lors d'une précédente rencontre. Pierre, triple vainqueur sortant, qui termine donc deuxième cette année. Pour Tefana, c'est un retour au premier plan après 7 temps sans succès en championnat. Le club retrouvera la Ligue des champions d'Océanie l'an prochain. Un beau cadeau pour cette équipe qui fête ses 90 ans cette saison. Saison qui n'est pas encore terminée puisque la Coupe de Polynésie se poursuit. Samedi, 8 équipes jouent les quarts de finale, parmi lesquelles Tefana donc, qui sera opposée à l'AS Centrale au Stade Pater.
Et on termine ce journal par un anniversaire.
Le 20e anniversaire, plus précisément celui du groupe de percussion Batukaina. Après deux décennies d'existence, la formation continue de partager, dans un esprit festif, les rythmes et la culture brésilienne au Fenua. À l'origine, un homme, Gilles Dougiède, c'est à son arrivée sur le territoire il y a 20 ans que ce passionné de samba fait venir des instruments pour ouvrir son école. Depuis, l'esprit et les objectifs n'ont pas changé. Écoutez.
Apprendre déjà la percussion brésilienne aux gens, dans un esprit festif, hein, toujours, parce que l'idée, c'est pas l'université, il n'y a pas de diplôme à la fin. Hein. C'est ouvert à toutes et à tous, quel que soit le niveau. Et après, moi, j'adapte les instruments suivant les gens, en fait, suivant ce qu'ils aiment. Donc après, de faire évidemment des prestations en ville, enfin en tout cas, des carnavals.
Gilles Dougiède, fondateur du groupe Batukaina, qui était au micro de Lucie Rabreo. Il compte 25 élèves entre Talavao et Papeete. L'enseignement se déroule oralement, chaque rythme est répété à la voix pour apprendre à jouer sur les différentes percussions brésiliennes, dont les noms et les sons sont détaillés par le professeur.
Tous les instruments s'expliquent à la voix. Donc le chocaillot, c'est... le tambourin, c'est tac-tac-tac-tac-tac. Et la gogo, c'est quand-kiki-quand-quand-kiki. Les caisses claires, c'est les mêmes instruments que les caisses claires de batterie. Et les sourdos, ce sont les tambours graves. Le sifflet, c'est un apito. En fait, c'est un sifflet à 3 tons. Il permet effectivement d'interpeller la batterie.
Voilà, et comme presque tous les ans, le public pourra retrouver la Batukaina et ses sonorités dans les rues de Papeete ce 21 juin pour la fête de la musique, en attendant un événement plus important pour son anniversaire. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est à 16h.
Merci beaucoup, Valdemar.